Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Tristan Champion, aussi connu sur le web sur le nom de Barbapapa, le nom de son blog où il a raconté son congé paternité de 5 mois en Norvège et plus récemment dans un livre intitulé « La barbe et le biberon ». Il m'explique comment il a rencontré Louise, sa femme norvégienne, durant ses études en Erasmus, comment ils ont décidé de faire des enfants, d'abord en France, puis en Norvège, et leur petite dernière, née il y a quelques semaines en Suisse. Tristan m'explique aussi longuement son expérience de congé paternité en Norvège, comment il en est venu à prendre 5 mois en tête-à-tête avec sa fille, ce que ce congé lui a apporté en tant que père, et pourquoi il avait peur au départ de le prendre et de le raconter dans son blog. J'espère que cet épisode vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à le mener. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à venir me mettre 5 étoiles et un cool commentaire dans Apple Podcast, ça aide Histoire de Daron à se faire connaître. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Merci d'avance, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Tristan. On est avec Tristan, salut Tristan.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci. La forme.
Je suis désolé Tristan, je te remets devant ton écran, alors que tu me disais au tout début de l'interview que t'en avais marre d'être devant ton écran.
Bah, on est un peu tous comme ça, à faire du télétravail, le home office, les Teams, les Skype, etc. avec l'équipe. Donc du coup, avec la naissance de ma petite, là j'étais content de faire un petit break. Mais je suis content de te parler, donc là c'est un bon écran, si je puis dire ainsi.
Ok. On va reparler un petit peu de la naissance de ta dernière fille, parce qu'en fait t'as 3 enfants aujourd'hui, c'est ça?
Exactement. Donc avec la particularité qu'ils sont nés dans 3 pays différents. Donc j'ai mon petit Émile qui a 6 ans maintenant, qui est né à Paris, donc c'est là d'où je suis originaire. Et comme ma femme est norvégienne, on a aussi vécu en Norvège. Et quand j'ai déménagé à Oslo avec elle, on a eu une fille, Nora, qui est née là-bas. Et puis là, avec mon entreprise, j'ai eu un contrat d'expatriation en Suisse, à Lausanne. Et donc du coup, on a eu notre troisième enfant en terre helvétique. Et donc du coup, Ella est née il y a une semaine.
Et, félicitations.
Et ouais, merci, je suis très content. 3 enfants, 3 pays différents, mais c'était pas trop mon projet de vie au départ. Hein. Mais voilà, les aléas de la vie, ça fait que on voyage. Et puis bon, quand même, non, j'aime bien les nouvelles histoires, les nouvelles aventures. Donc du coup, forcément. Je suis assez mobile et comme on est un couple Erasmus, puisqu'on s'est rencontré avec ma femme en Autriche à Vienne, bon, on est un petit peu européen dans le sang, donc on aime bien voyager.
Bouger. On va reparler un peu après, c'est sûr, mais en fait, on s'est rencontré à l'occasion de la fameuse tribune qu'on a coécrite au mois de juin pour le congé paternité. Tu as une histoire particulière, toi, avec le congé paternité, et encore une fois, on va en reparler après. Mais effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer par cet intermédiaire-là. Est-ce que tu peux resituer un petit peu le pourquoi du comment de cette tribune que peut-être, sans doute, nos auditrices et auditeurs ont vu passer? Quoi, à l'époque.
En fait, le constat, il partait du fait que j'observais autour de moi qu'on était de plus en plus de pères, blogueurs ou impliqués sur les questions du congé paternité, de la paternité de manière générale. Toi, avec Histoire de Daron, il y avait un autre d'autres blogueurs comme Papa Plume. J'avais écrit avec Patrice, il y a un an et demi, une tribune sur le paternel. Et en fait, je remarquais qu'on était tous dans notre coin à faire nos articles, nos podcasts, etc. Et enfin, toi par exemple, tu t'en t'en as interviewé plein, mais on s'était pas réunis ensemble pour d'une voix forte exprimer le nouveau désir sur le congé paternité de manière générale en France. Et du coup, un jour, je me suis dit, j'avais envie d'écrire une tribune, et je me suis dit, mais j'en ai déjà écrit une, ça a rien fait. Comment on fait pour avoir plus d'écho? Et l'union fait la force. Et du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp avec deux, trois personnes que je connaissais qui disaient, est-ce que vous voulez pas qu'on écrive une tribune? Et ils m'ont dit, oui, mais tu devrais inviter lui, vieux machin bidule, tu devrais inviter Papa Patriarcat, Histoire de Papa, Histoire de Daron et tout. Et petit à petit, on s'est retrouvés à 10 sur ce groupe WhatsApp. Et on a fait 3-4 meetings ensemble pour écrire une tribune. On a réussi à trouver un point commun parce qu'on est tous des horizons hyper différents, des convictions politiques un peu différentes, des expériences différentes. Donc forcément, trouver un dénominateur commun à 10 personnes, c'est pas toujours facile. Mais l'allongement du congé paternité, ça nous a bien unis. Et en 2 semaines, on a écrit cette petite tribune. Et puis, avec les réseaux collectifs qu'on avait tous, on avait pu avoir un grand écho de cette tribune sur plein de médias. Et ça, c'était super.
Ouais, on a fini par avoir une session avec Adrien Taquet. C'était plutôt cool, hein.
Oui, parce qu'il y a eu les politiques, il y a eu les associations, parents et féministes qui ont aussi vachement soutenu ce qu'on a fait. Puis, ce qui était un peu unique, c'était que c'était des paroles de père sur un sujet de la parentalité dominée quand même par les femmes. Même le congé paternité aujourd'hui est un sujet qui est très, très, très présent dans les réseaux féminins et pas forcément dans les blogs de pères, mais de plus en plus quand même. Et donc, il y a eu quand même un effet boule de neige qui fait que je pense que l'attente était déjà là, Macron en avait déjà parlé il y a longtemps, mais le fait qu'on ait fait cette tribune-là, qu'elle ait eu un large écho, il y a eu un petit effet domino qui a fait que le gouvernement s'est dit « ouais, faut peut-être quand même qu'on accélère maintenant parce que il y a une voix qui se porte officiellement ». Et on dira jamais assez que les réseaux sociaux, c'est le nouveau canal révolutionnaire, en fait. C'est très bizarre, mais c'est vraiment par là que ça passe maintenant. Et c'est à coup de partage, de likes, qu'on arrive même à toucher des gouvernements. Et ça, c'est... Moi, c'était quand même quelque chose que j'ai appris, enfin, que j'ignorais. C'est vraiment... c'est pas que du virtuel, en fait. C'est dingue. Et c'est grâce à ça qu'on a contribué modestement, mais quand même contribuer à l'élaboration de cette loi. Ouais.
Ah, c'est cool. Et comme tu le disais, je pense que c'était la première fois qu'une bande de pères prenait la parole sur un truc qui, quand même, de base, nous concerne tous, mais où, effectivement, historiquement, c'est plutôt les mères et les femmes qui prennent la parole sur le congé paternité, ce qui est quand même ouf, quoi.
On n'est pas les meilleurs, en fait, pour parler de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte pas sur comment on vit, le côté un peu plus émotionnel, le côté un peu plus fragile. Je pense pas que c'est que parce que il y a le mythe de la masculinité qui est forte, etc. Je pense aussi que ça n'intéresse pas beaucoup les hommes, en fait, d'entendre d'autres hommes parler de leur fragilité, de leurs moments difficiles de vie. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a envie d'écouter comme ça spontanément. Et peut-être que j'ai tort et que tu vas me dire qu'avec Histoire de Daron, il y a plein de choses qui sortent. Et moi, j'écoute souvent Histoire de Daron. Mais même personnellement, tu vois, aller voir un blog de père, je me dis toujours, oh, bah, j'essaie ce qu'il va me raconter, je vais pas apprendre grand chose, etc. Mais en fait, à tort, parce que parfois, tu apprends des nouvelles choses et c'est. Et c'est vachement enrichissant. Parfois, c'est détaillé avec des études, etc. Je suis en train d'écrire sur mon blog « Es-tu un Instadad ?» Comment reconnais-tu comment devenir un Instadad ? Comment mettre en scène ta vie pour la montrer ? Parce que je vois que parfois, tu peux aller très loin en touchant les followers, etc., en mettant un peu en scène ta vie, tes moments de réussite, les moments difficiles avec tes enfants. Et ça va être un article sympa, ça.
On va reparler un peu de ton blog, mais c'est vrai qu'en fait, il y a un truc que je trouve, moi, particulier, c'est que les mecs ont tendance à croire que En fait, si tu vis un truc, tu vis un truc tout seul, tu vois. Et c'est un truc que j'ai appris moi avec Mademoiselle, c'est-à-dire que à partir du moment, et notamment autour de, bah, on a fait sauter, je pense, avec Mademoiselle plein de d'idées reçues sur sur les femmes. Et en fait, elles avaient souvent l'impression, et notamment, tu vois, sur cette histoire de harcèlement de rue où les filles qui se faisaient insulter ou aborder dans la rue, elles pensaient qu'elles étaient toutes seules à vivre ce truc-là. Donc en fait, elles en parlaient pas. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça a bien marché sur Mademoiselle, c'est qu'en sortant dans la rue, dans le magazine et en disant, en fait, moi, je vis ça. Et en fait, on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre ça en parlant. Au final, on vit tous ça. Ça finit par libérer la parole sur un sujet. Et je pense que les mecs ont vachement du retard là-dessus. Et c'est ce que j'espère faire, moi, avec Histoire de Daron notamment, c'est de libérer la parole. Et c'est ce que tu fais un peu aussi, on en reparlera avec ton blog, etc. C'est de libérer la parole sur des sujets, de venir dire tout simplement les trucs que tu vis et qui sont pas forcément évidents à partager, et qui permettent de se rendre compte qu'en fait... les trucs qu'on vit qui sont un peu compliqués sont beaucoup plus universels qu'on pourrait le penser, quoi.
Non, c'est clair. Et surtout les difficultés de vie de jeune père qui sont ultra universelles, ça c'est sûr. Ce que je trouve moi délicat, c'est le vivre d'un côté, le raconter, c'est une autre chose parce que forcément tu le romances, tu parles d'un moment donné, tu le mets un peu en scène, donc du coup il y a l'authenticité à garder. Je trouve que parfois c'est un peu difficile de garder cette authenticité quand tu racontes ton histoire. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon blog, avec le livre aussi, mais j'ai un peu romancé parce que il faut aussi toucher, il faut aussi parfois faire rire, faire un peu provoquer des émotions, etc. Et tout n'est pas si intéressant dans la vie de jeune père. Donc, tu dois un peu saucissonner ta vie et vraiment l'exercice qui est d'identifier ces moments dont universels, qui est la naissance, être seul avec son enfant pendant plusieurs heures, plusieurs jours, en l'occurrence moi plusieurs mois, il y a des moments comme ça universels qu'il faut savoir capturer et raconter. Et je pense que c'est un peu le rôle des blogueurs aujourd'hui, c'est de raconter ces moments-là.
Bon, on va reparler de ta vie de blogueur, d'auteur, etc. un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que t'as voulu devenir papa.
Ah bah moi j'ai une famille, on est quatre enfants. J'ai un grand frère qui est adopté, qui est indien. Mes parents ont vécu en Inde pendant 2 ans et ils sont revenus dans les années 70 avec mon grand frère. Après j'ai 2 sœurs qui sont nées en 76, 77 et moi je suis né en 84.
Et le donc petit dernier.
Petit dernier d'une grande famille de 4 et ça c'est un modèle qui m'a toujours plu, donc j'avais un peu envie de le reproduire, et donc c'est quand même ça qui m'a donné envie de faire des enfants. Et comme ma femme aussi, elles sont 3, on a toujours eu envie de faire des enfants. C'était vraiment quelque chose de juste la reproduction familiale. et puis la perspective avec une femme aussi étrangère norvégienne, d'avoir des enfants un peu binationaux, avoir des enfants dits Erasmus, ça c'est parce que la nouvelle génération, on dit qu'ils sont plus 1 million enfants Erasmus maintenant. Et donc, là, mes 3, ils font partie de ça parce que on s'est rencontrés pendant nos études. Et ça, c'était vraiment aussi une sorte de découverte. Et avoir des enfants à 3-4 ans qui parlent déjà 2 langues, c'est magnifique. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Et là, je le vois avec mes enfants. C'est une chance qu'ils ont. Et donc, j'étais super content de rentrer dans cette vie de la paternité pour pouvoir transmettre ce que j'avais aussi reçu.
Ok. C'est marrant cette histoire d'enfant Erasmus parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc qu'on ait pu trouver pour régler les problèmes de conflits européens, si tu veux. On va foutre des jeunes ensemble, ils vont se découvrir, ils vont baiser, ils vont éventuellement ils vont éventuellement se marier, ils vont faire des enfants ensemble. Bah écoute, c'est encore la meilleure façon de rapprocher les peuples, en fait, hein, tu vois, il y a pas vraiment de meilleur truc.
Ah, c'est clair. Et puis mais c'est quand même un vaste bordel parce que en plus nous on a commencé notre relation en allemand. Parce qu'on était en Autriche, à Vienne, et donc fallait parler allemand. Louise, elle parlait pas français à cette époque-là. Moi, je parlais pas norvégien. Après, peut-être à la relation à distance où elle était en Norvège et moi j'ai revenu en France, donc c'est la relation par Skype, etc. C'était compliqué, donc fallait que quelqu'un fasse un sacrifice. À un moment donné, faut quand même quitter son pays pour se voir. Hein. Donc elle a commencé, elle est venue un an en France, elle a parlé, elle a appris le français et moi, je commençais un petit peu à apprendre le norvégien, mais on parlait pas mal en anglais du fait qu'il y avait des gens autour de nous qui parlaient ni allemand et qui ne parlaient pas allemand. Et après un an, elle a commencé à travailler en France. Elle a été prof d'allemand en France, justement, dans un lycée dans le 18e arrondissement à Paris. Donc, être norvégienne dans un lycée dans le 18e arrondissement de Paris, en mode prof d'allemand, c'est rigolo comme histoire. après 5 ans, voilà, de toute façon, les Norvégiens, les Norvégiennes, enfin, les Scandinaves de manière générale et les langues, c'est un peu énervant parce qu'ils sont super forts. Et donc, on a continué après en norvégien, parce que quand on a déménagé là-bas, j'ai dû apprendre le norvégien. Donc, c'est aussi ça, Erasmus, c'est un bordel linguistique dans une famille où tu commences ta phrase en français, au milieu, c'est norvégien, ça finit un peu en allemand.
Et en fait, c'est ouf parce que de ce fait-là, toi, tu parles sa langue maternelle aujourd'hui, c'est ça?
Bah ouais, mais t'imagines que quand tu vis en Norvège pendant 5 ans, que tes enfants, ils vont à l'école en Norvège, qu'ils parlent le norvégien, pour moi, avoir des enfants, c'est transmettre et c'est comprendre et écouter. Donc, je pouvais pas concevoir le fait que mon fils parle une langue que moi je maîtrise pas. C'était impossible à concevoir. Donc, j'ai fait des cours intensifs de norvégien tout de suite. J'ai dit au boulot, quand je travaillais en Norvège, on parle tous en norvégien à 100%, même si je vais galérer au début. Je me suis vraiment fait un peu violence parce que j'avais cette motivation de pouvoir échanger avec mes enfants et de pas me retrouver à des tablés dans un dîner de Noël norvégien où tout le monde parle norvégien et moi je suis là à manger de la nourriture norvégienne, hein, pas terrible d'ailleurs, et rien comprendre de la conversation, ou pire du pire, je sais pas si tu as vécu beaucoup ça, ou quand tout le monde parle en anglais parce que toi tu parles pas la langue, donc tout le monde parle en anglais parce que tu parles pas norvégien, mais toi t'as pas forcément envie de participer à cette discussion autour de la chasse aux baleines dans l'extrême nord de la Norvège. J'ai aucune opinion sur la baleine en Norvège, donc je voulais, quand tout le monde change de langue pour toi, ça te force un peu à devoir donner une opinion sur un sujet dont t'as pas forcément envie, et ça je suis content de pas avoir vécu ça, à vivre ça trop, et donc du coup voilà, le norvégien dans la poche, même si là faut continuer la pratique parce qu'on est revenu en français depuis qu'on a déménagé en Suisse.
Ouais, j'imagine. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est que t'as quand même fait cet effort-là de te mettre au norvégien, alors qu'il y a des couples comme ça binationaux qui n'apprennent jamais la langue maternelle de l'autre et qui finissent par parler anglais, qui est un peu le truc de base, quoi. Et c'est ouf de, enfin, à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais c'est ouf ces couples qui ne parlent la langue maternelle ni l'un ni l'autre. Et donc au final, ils sont sur une langue étrangère. Je sais pas à quel point aussi ça altère, tu vois, les conversations que tu peux avoir avec l'autre quand tu t'adresses dans une langue qui est pas la tienne. T'as pas forcément toutes les nuances que tu peux avoir toi dans ta langue maternelle, quoi.
Ah oui, au départ c'est très limité d'ailleurs. et bon, de toute façon, au départ, comme on s'est rencontrés en Erasmus, on avait pas beaucoup besoin de parler. Hein. On dansait, on buvait. Puis, bon. On couchait, quoi.
C'est Sébastien Marx. Je sais pas si tu connais Sébastien Marx, qui est un humoriste. J'avais eu dans l'histoire de Daron, et lui raconte sur scène, il a une phrase géniale, je trouve, c'est qu'il dit, en fait, c'est terrible parce que quand il est arrivé en France, il parlait pas bien français, et il dit, en fait, la première fois que tu couches avec une fille française, tu couches avec le vocabulaire d'un enfant de 6 ans, en fait, tu vois, et donc t'es juste capable de dire tomate, tomate. Je trouve ça vraiment marrant.
C'est exactement ça. Mais en fait, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que ça donne du piment au couple, parce que plus t'avances dans ta relation, plus la nuance arrive. Les références qu'on n'avait pas au début, on les a à la fin. Je veux dire, tu vois, toute la filmographie française, Louise, elle en connaissait rien. Et donc, du coup, petit à petit, on a découvert ça ensemble. Elle m'a fait découvrir aussi tout l'univers norvégien. Et ça permet aussi, du coup, de s'intéresser à l'histoire de l'autre. Et plus tu avances dans ta relation, plus la nuance vient. Et aujourd'hui, Louise, elle connaît même les inconnus ou la chèvre
avec Pierre Richard. Découvrir le meilleur de la culture française.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais parfois, je dis, ah là là, moi, je suis trop Pierre Richard. Elle me dit, quoi, Pierre Richard? Ben, je dis, oui, la chèvre. Du coup, on se mate la chèvre. et c'est comme ça que tu découvres petit à petit la culture de l'autre aussi, avec toutes les références qu'il y a.
C'est génial. Et c'était toi, une envie que tu avais quand tu étais plus jeune, tu vois, de te dire, je vais faire en sorte de trouver une copine étrangère, quoi.
Je pense pas que c'était un mode de vie, mais c'est arrivé comme ça en Erasmus de manière un peu spontanée. J'avais fait allemand première langue. Enfin, ma mère m'avait fait faire allemand première langue pour être dans la bonne classe. Mon collège Paul Verlaine, qui était un peu pourri. Mais les enfants qui avaient allemand première langue étaient dans la bonne classe. Et du coup, on était 6 à faire de l'allemand et du latin. Et donc, du coup, quand je suis arrivé à l'université, il y avait possibilité de faire Erasmus en Autriche. Mais comme personne parlait allemand à l'université où j'étais, à Paris, j'étais le seul à candidater pour Vienne. Et donc, du coup, j'ai eu la place en Erasmus là-bas. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai tout de suite compris que ça allait être cool la vie en Erasmus et que, ça a changé complètement mon rapport au monde, mon rapport à moi-même. Enfin, la diversité culturelle que tu rencontres, tu te sens tout petit. La France, c'est pas le si grand pays que tu croyais que c'était. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans le monde. Et puis Louise est norvégienne, 1m78, toute douce, sympathique, et hyper festive aussi. Et on a tout de suite accroché en allemand. Et puis donc du coup, elle avait même un prénom français, Louise, mais alors qu'elle n'en parlait pas un mot. Et ça, c'était un super moment de vie. Et par contre, j'aimais bien le défi, tu vois, le défi, parce qu'il y a quand même un petit défi historique de dire, en fait, je suis la génération Erasmus et t'écris un peu l'histoire en ayant ce genre de relation. Et puis, il y a quand même eu le défi géographique qu'il fallait surmonter. Et celui-là, j'étais content qu'on y arrive. Et du coup, on s'est marié hyper tôt, à 25 ans. Parce que quand même, en fait, je me suis aperçu que les couples binationaux comme ça, et c'est dur de les garder si tu t'as pas un engagement, si tu décides pas très vite que ok, en fait on va être ensemble et ça va être ça la priorité. Et donc du coup on s'est marié hyper tôt, à 25 ans. Enfin,
d'accord. Assez tôt pour, Et l'enfant est arrivé quand alors votre non, premier
on en avait 30 ans.
Ok, vous avez quand même un peu attendu avant de.
On a quand même un peu attendu avant. Et Émile est né à Paris, à l'hôpital Trousseau. Et c'est là où j'ai eu mes 11 jours de congé paternité. Qui, pour moi, était tout à fait normal. Hein.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
T'as fait partie de ces pères qui ont quand même pris leur congé paternité, parce que c'était pas forcément un truc, quoi.
Non, c'était pas forcément un truc de prendre le congé paternité, mais... Bon, ça me paraissait normal de m'arrêter 2 semaines pour m'occuper de l'enfant, aider Louise. Je raconte souvent dans le livre que j'étais un peu copilote de Louise pendant cette période-là. C'était elle qui s'occupait d'Emile et moi, je l'aidais à aller chercher des couches, à aller faire à manger, etc. J'étais au petit soin, mais j'étais pas du tout l'initiateur de toutes les sorties qu'on pouvait faire avec l'enfant, de quand est-ce qu'on allait lui donner le bain, quand est-ce qu'on allait lui donner à manger, le lait, etc. J'étais pas du tout dans ce niveau de détail là de l'éducation. J'étais juste à m'occuper de Louise qui s'occupait du bébé d'une certaine manière.
Ce qui est déjà un truc, c'est déjà cool de faire ça, mais il y a l'étape d'après, j'imagine, dont tu vas nous parler.
Mais en fait, c'est cool de faire ça, et pour moi, c'était tout à fait normal, et c'était mon rôle. Mon rôle, c'était d'accompagner ma Louise. Et quand on a déménagé en Norvège, j'ai compris qu'en fait, la France, c'était pas du tout au top de la modernité quand il s'agissait du congé parental. Et c'est vraiment cette expérience norvégienne qui m'a donné envie de m'engager, qui m'a donné envie de bloguer, qui m'a donné envie de montrer que tu peux vivre ta paternité de manière tellement différente quand c'est bien pensé. Et je me suis dit, mais la France, elle a vraiment besoin de connaître et de comprendre dans le détail ce que c'est que d'être père dans ces pays-là, scandinaves, dits en avant sur l'égalité homme-femme. Et c'est vraiment cette différence d'expérience que j'allais vivre qui m'avait donné envie de bloguer et d'en parler.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir, par exemple, entre la première grossesse et donc qui s'est passée en France et la deuxième qui s'est passée en Norvège?
En fait, même la période de la grossesse, elle est assez différente en France et en Norvège. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va se passer, qui va être très différent. Je m'explique. En Norvège, quand ta femme est enceinte, et comme il y a un congé parental qui de 10 mois à se répartir au sein du couple, et que du coup, en moyenne, les pères en prennent au moins 3, où ils vont être seuls avec l'enfant, quand la femme est enceinte, tu sais déjà que au minimum, tu passeras 3 mois avec cet enfant qu'elle a dans le ventre, en tête à tête avec cet enfant, puisque les congés là-bas sont dits alternés, la femme le prend pas en même temps que le père, le premier parent le prend pas en même temps que le deuxième parent. Donc même pendant la grossesse, tu sais que tu vas être seul, donc du coup, t'es beaucoup plus intéressé tout de suite à toutes les questions qui tournent autour de l'enfant et du bébé et de comment fonctionne tout ce qui est administratif, comment fonctionne la PMI là-bas, etc. Parce que tu vas être moteur de ça et tu dois pas te planter de manière générale. Donc là, déjà, au niveau de la grossesse, c'était un peu plus impliqué. Et puis aussi, il y a une discussion au sein du couple qui est hyper présente en Norvège et pas en France. Parce qu'en France, c'est figé, le bébé va naître, la mère va prendre 3 mois de congé mat à peu près, toi, tu vas être là 10 jours, les grands courageux vont prendre un congé parental, mais bon, c'est une minorité en France. Moi, j'étais pas dans cette minorité. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de discussion qui s'installe sur comment on va s'occuper du bébé. On va essayer de se démerder avec une garde partagée après 4-5 mois, une crèche si on a de la chance, etc. En Norvège, il y a une règle qui dit, bon, bah, vous avez 10 mois avec 3 mois de quota pour la mère, 3 mois pour le père et 4 mois à vous répartir comme vous le souhaitez. Et donc, en fait, cette règle-là, elle fait qu'il y a une discussion qui vient au sein du couple, c'est, ben, on va faire comment? Et donc, pendant 6 mois, tu discutes de ça. Qui va s'occuper du bébé, quand, est-ce que on va prendre 5 mois l'un, 5 mois l'autre, 3 pour elle, 7 pour moi, etc. Et cette discussion-là, elle est magique parce qu'elle fait que tu choisis ta parentalité et tu la subis pas. T'es dans un mode hyper, de la discussion avec ton époux, ton épouse. Et en l'occurrence, moi, j'étais pas très chaud, je vais être honnête. Hein. J'étais pas du tout chaud pour faire... déjà, 3 mois, c'était énorme. J'étais pas chaud pour faire beaucoup plus. Et Louise, qui est norvégienne, féministe, elle voulait absolument qu'on fasse moitié-moitié. Et c'est elle qui m'a poussé à ce que j'ai 5 mois de congé parental.
Et pourquoi t'étais pas très chaud? Avec le recul?
Non, c'était pas du tout dans mes codes et dans mes codes. En fait, moi, en France, on fait pas ça, donc je voyais pas trop l'intérêt. J'avoue que il y avait aussi le fait que se retrouver seul avec un enfant pendant 5 mois, je pensais que ça allait être vraiment ennuyant, pour pas dire chiant. Je voyais pas trop avec le si peu d'interaction qu'il y avait avec l'enfant à cet âge-là. Tu me dirais, sois seul avec ton enfant quand il a 5 ans pendant 3 mois, je fais cool, mais quand elle a 4 mois, 5 mois, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Il y a des gens qu'on peut payer qui savent très bien faire ce métier-là. Je me disais juste ça, quoi. Et puis, et l'autre truc, c'est le boulot, c'est que au même moment où Louise est enceinte, ça concorde avec un moment où ma boss s'en va, et du coup, j'ai une opportunité de carrière qui se dessine devant moi. Et du coup, moi, je voulais postuler au poste de directeur marketing. Et en même temps, je dois aller voir ma boss pour lui dire, ah bah, mais je veux aussi prendre 5 mois de congé paternité avec la naissance de ma fille. Et là, ça me stressait complètement à cette idée de potentiellement rater une promotion au boulot, que je commençais à me dire, mais est-ce que c'est ce que je dois faire, pas faire, etc. Donc, du coup, j'ai commencé à un peu vouloir me, voilà, défausser un peu. Voilà, je voulais me défiler un petit peu. Mais Louise a dit non, il y a le boulot, c'est sympa, mais en Norvège, c'est moitié-moitié. À Paris, c'est moi qui ai tout fait. On est à Oslo, c'est mes règles qui valent et maintenant tu t'adaptes. Et donc, du coup, je me suis adapté.
Est-ce que on dirait, comme tu le racontes, que tu l'as un peu subi? Tu l'as un peu subi sur le moment, ce système, c'est ça, en tant que Français?
Je l'ai subi. Mais j'ai clairement subi, parce que moi, si tu m'avais demandé à moi, j'aurais pris les 2 mois et demi, 3 mois qu'on m'avait donné, pas plus. Mais j'ai tout de suite et vite pris ça comme un défi un peu en mode performance. Et, ah ouais, est-ce que Tristan, t'es capable de t'occuper seul d'un enfant pendant 5 mois? Il y a quand même le côté un peu, on revient à un modèle un peu traditionnel masculin de la performance, la victoire, je vais y arriver. Et tout d'un coup, j'ai eu un moment, un déclic en disant, non seulement je vais les faire ces 5 mois, mais je vais les faire de telle manière que quand ma fille va me quitter pour trouver une crèche ou une place en garde partagée ou nounou, ce qu'on trouvera, eh ben, elle sera épanouie, peut-être qu'elle saura déjà marcher, je vais l'avoir vachement stimulée avec plein d'activités. Et donc, je suis rentré comme ça dans un mode complètement mais irrationnel de non seulement je vais m'en occuper de ma fille, mais en plus, ça va être la meilleure. Et je suis rentré dans un délire un petit peu de performance et je vais le montrer à la France aussi, à travers un blog, que non seulement que t'es père et que tu peux aussi, que ça existe, ce système-là, et qu'on peut aussi être aussi crédible que des femmes pour s'occuper des enfants. C'est aussi parce que parfois, quand t'es père et qu'on parle de congé paternité, t'as quand même beaucoup, de mères féministes qui sont vachement pour, mais t'as aussi tout un pendant féminin qui dit que vous serez jamais aussi capable que nous de vous en occuper. Si on a l'aide, c'est pour une raison. Chacun son rôle. Il y a aussi un grand mouvement un peu traditionnel en France, mais dans le monde, hein, sur comment on s'occupe d'un enfant. Et moi, j'avais envie de montrer qu'on en était capable.
Donc, c'est trop drôle que t'aies vraiment mis ce truc en mode... c'est finalement très masculin, quoi. Tu vois, tout l'aspect de compète et de dire... elle saura lire. Quand...
Ah, mais moi, ça... fallait qu'elle s'ajoute aux échecs à 1 an et demi, quoi. Et j'étais en mode compétition absolue, parce que aussi, ce qui était génial et que je raconte dans le bouquin un peu, c'est que la Norvège te permet de t'épanouir pendant cette période en tant que père, et t'as accès à plein d'activités qui n'existent pas en France quand t'es jeune père à Oslo. Et en gros, chaque jour, tu as une activité qui peut être proposée. Donc, ça peut être du papa et bébé swimming, du papa et bébé yoga. Ça peut être aller dans un musée en poussette. Ça peut être aller dans une crèche ouverte pour faire partager à ton enfant d'autres moments de vie. Et en fait, il y a tellement de choses qui te sont possibles que moi, comme je voulais montrer que tu peux être père et le faire, j'ai tout fait, quoi. J'ai vraiment tout fait. Je suis même allé dans une chorale. Moi, je suis pas du tout catho, mais je suis allé dans une chorale dans des églises protestantes norvégiennes où les prêtres font apprendre à chanter à des enfants de 4 mois, 5 mois. Bon, en fait, c'est horrible, hein, comme moment. Mais c'est l'idée d'aller voir des gens, d'être dans un lieu public où tu t'amuses à rencontrer d'autres parents et à faire chanter des enfants. Enfin, c'est plutôt des parents qui chantent. Mais moi, je parle bien norvégien, mais je connaissais pas non plus toutes les comptines norvégiennes.
Oui.
Et donc, du coup, je suis même allé faire des chorales pour enfants en norvégien dans des temples protestants à Oslo.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Waouh. Mais en fait, c'est ouf à quel point d'une décision qui est en fait arbitraire, c'est-à-dire, ok, la société décide que tu vas être obligé de faire 3 mois de congé paternité minimum, derrière, la société se met en branle pour faire en sorte que, bah, que de t'accompagner, quoi, tout simplement. C'est assez ouf. Hein.
Mais c'est en ça où, pour moi, ils sont avancés. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est un peu le sens de
Ils ont pas le choix aussi quelque part, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je pense que si on faisait pareil en France, il y aurait une demande, et donc en fait la demande créerait l'offre, tu vois. Tu crois pas?
Tu veux dire que les pères n'ont pas le choix, ils doivent le faire, donc du coup Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, okay, c'est ça qui manque à la France, c'est qu'il n'y a pas d'offre de moment à partager un congé paternité entre mecs ou avec des activités qui, pour parents, pour bien vivre son congé.
T'as l'air rebondir sur un truc.
Ouais, mais du coup, tu me l'as fait perdre, mais c'est pas grave.
Pardon. Tu disais, c'est ça qui était ouf, c'est qu'ils sont vraiment en avance par rapport à nous.
Oui, en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, une loi pour l'égalité homme-femme, une loi pour le congé paternité, c'est pas un nombre de jours, un nombre de mois, un nombre de semaines. Est-ce que c'est payé à 50%, 100%? Est-ce que c'est obligatoire, facultatif? C'est pas ça une loi de société qui fait changer une société. Une loi moderne, féministe ou humaniste, ou en tout cas égalitaire, c'est une loi. Et comment tu accompagnes les parents pendant ce moment-là? Moi, ce qui m'a marqué et en Norvège, c'est pas que je fasse. Oui, c'est qu'il y a 3 ou 5 mois de congé parental avec un enfant, c'est énorme. Mais c'est aussi que tout est mis en place pour que cette période qui est censée être une période d'isolement un peu ennuyante où tu es seul en tête à tête avec ton enfant, qui devient une période d'épanouissement où tu vas créer du lien social avec d'autres pères. Et il y a un élément qu'il faudrait qu'on retienne en France que j'ai adoré, c'est le concept. Alors en norvégien, ils disent le barselgruppe, ce qui veut dire le groupe de naissance. C'est qu'en fait, je ne sais pas comment tu l'aurais vécu si tu avais eu ça toi pour tes enfants, c'est qu'en fait, quand tu as un enfant en Norvège, tout de suite, tu as la sage-femme qui vient chez toi et qui te dit, basé sur la géolocalisation, tu as 6 couples autour de chez toi qui ont eu un enfant la même semaine ou le même mois. Et du coup, elle crée pour toi un groupe WhatsApp où elle te met en lien et en fait, elle commence forcément avec la mère et qui va commencer le congé maternité. Et la mère va se retrouver avec 6 mères autour d'elle de son arrondissement où elles vont pouvoir se rencontrer. Et la tradition norvégienne veut que, comme les congés sont alternés, quand la mère finit, c'est au père de prendre le relais et le groupe de mères se transforme en groupe de pères. Et donc, du coup, toi, tu vois les pères de ton... tu continues avec les pères de ton arrondissement. Je sais pas si tu.
Si, je vois bien. Et donc, sur ton blog d'ailleurs, il y a des photos où vous êtes entre darons, c'est ça, c'est trop marrant, avec vos poussettes, enfin vos landos.
Alors moi, je t'avoue que j'ai pas suivi le truc norvégien parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Facebook et il y a un groupe qui s'appelle les groupes français à Oslo. Et j'ai dit à tous les pères, les gars, vous avez pas votre congé paternité en ce moment, moi je suis seul avec ma fille. Et là, j'ai eu plein de pères français qui m'ont écrit Et du coup, on s'est constitué un groupe des mousquetaires à Oslo avec nos enfants. Et c'est comme ça que j'ai passé 4 mois de congé avec ma fille, avec d'autres pères. Et ça, c'était cool.
Ok. Donc ouais, tu disais justement que t'avais envie, enfin t'as créé à cette occasion-là ton blog qui donnera ensuite un bouquin que t'as sorti en début d'année dernière, enfin en début de cette année parce que non, ce sera l'année dernière quand je le diffuserai. Mais bref, t'as sorti un bouquin. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de créer ce blog à l'époque?
Ça m'a apporté de mettre des noms, des émotions, des concepts sur des expériences de vie. En fait, ça m'a fait réfléchir sur ce que je vivais de différent entre la France et la Norvège pendant mon congé paternité norvégien. Le concept de l'alternance. Je me dis, ah mais en fait, écrire, ça m'a fait comprendre que ce qui change la donne en termes d'égalité homme-femme, c'est vraiment le fait que je me retrouve seul avec mon enfant. Et c'est le matérialiser, l'écrire, le conceptualiser, le réfléchir qui me l'a fait vraiment comprendre. Et c'est pour ça que, en fait, moi, mon militantisme, il n'était pas tant sur l'allongement du congé paternité, il était plutôt sur le fait de dire, bah, faisons un congé paternité plus long, mais mettez-le après le congé maternité. Ce serait plus intelligent, ça changerait beaucoup plus la société. Ça m'a fait aussi, ouais, donc du coup, m'intéresser aussi statistiquement, donner envie d'aller creuser en termes d'études, de recherches sociologiques sur pourquoi la Norvège a mis ça en place, depuis quand, d'où ça, quand est-ce que ça a commencé, ce mouvement des pères qui s'occupent de leurs enfants. Et en fait, ça m'a fait tout simplement m'enrichir même intellectuellement sur l'égalité homme-femme en Norvège et en Scandinavie. Et par exemple, j'en parle un peu, il y a un grand mouvement qui est né dans les années 70-80 en Scandinavie qui s'appelle les papas velours. Les papas velours, c'est les premiers pères officiels en Europe qui ont réclamé le droit de s'occuper de leur enfant autant que les mères, qui avaient une manière de réfléchir qui pourrait être aujourd'hui encore valable, qui de dire bah finalement, ok, les mères sont discriminées sur le marché du travail parce qu'elles sont éloignées à cause des congés maternité, mais nous, on est discriminés dans la sphère domestique et familiale parce que on doit bosser, on peut même pas s'arrêter pour s'occuper de nos enfants alors qu'on en a envie. Et ces papas dits velours, c'est le tissu un peu androgyne qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, c'est un beau, et puis qui dit papa doux, etc. C'est assez bien trouvé comme image, je trouve, ouais, assez élégant. Les papas velours étaient critiqués en 1970 en Scandinavie parce qu'ils étaient moqués, vous êtes des papas fragiles, vous êtes ridicules, et du coup le mouvement était un peu mort parce que il n'avait pas pu s'émanciper. Et je me suis intéressé comme ça à comprendre comment la Norvège en est arrivée à ce que dans les années 1990 elle établisse déjà 4 semaines pardon, de congé paternité, ce qui est énorme. Nous, en 2020, on a à peine ce qu'eux avaient en 1990.
Ah, c'est clair.
Et ça m'a fait aussi essayer de comprendre mais comment ils en sont arrivés là et comment, je mets notamment dans mon blog, comment ils ont créé même de la publicité dans les années 78, déjà en Suède, par exemple, où ils ont mis en scène un haltérophile ultra bodybuildé qui s'occupait d'un bébé et qui disait « Les gars, prenez votre congé paternité ». On n'est même pas dans les années 80. Hein. Ouais. Et tu vois un mec, il s'appelle Dahlgren, mais son surnom c'est Oa Oa, parce que quand il soulève ses haltères, il dit Oa Oa, et comme ça il les soulève très haut et il est très fort et il a un bras qui fait 5 fois le mien, et il prend son congé paternité avec son enfant quand même. Il arrête la compétition pour s'occuper de son fils, et là le gouvernement suédois l'utilise en égérie du congé paternité dans les années 80. Donc voilà, ce blog il m'a fait m'intéresser aussi à tout ce mouvement qui a été créé en fait il y a 40 ans déjà, et qui me fait réaliser à quel point on est en retard quand on considère que c'est révolutionnaire d'allonger le congé paternité là de 12 jours à 28 jours. Non, c'est pas révolutionnaire, c'est une belle évolution pour la France, mais on est encore loin derrière le modèle.
On pourrait faire beaucoup mieux, quoi.
En fait, on pourrait être plus ambitieux, on pourrait avoir juste une vision, en fait. Juste une vision sur c'est quoi la parentalité moderne. Est-ce que c'est égalitaire? Est-ce que c'est l'alternance du père seul avec son enfant? C'est quoi, dans le féminisme moderne, le rôle du père, le rôle de l'homme aussi? Parce que un autre élément, j'enchaîne un peu parce que pour moi, c'est un peu dans le fil de la discussion, hein, mais ce qui m'a marqué dans toutes mes recherches du modèle norvégien ou nordique, c'est que le prisme de l'égalité homme-femme n'est pas pris qu'à travers les problèmes de représentativité des femmes dans certains milieux, comme le milieu politique, dans des comités de direction, où on va mettre des quotas de femmes pour égaliser entre guillemets des anomalies créées par le système patriarcal. La Norvège dit, attendez, il n'y a pas que ça comme levier d'égalitarisme. Il y a aussi le fait que les pères sont sous-représentés, sous-utilisés dans certaines filières éducatives, du milieu de la santé, où ils devraient être beaucoup plus représentés. Donc du coup, c'est des pays qui n'hésitent pas à mettre des quotas d'hommes dans les métiers de la petite enfance. Ça, c'est quand même hyper couillu, franchement, ouais. De dire, tu vois, moi, donc du coup, comme moi, j'ai mis mon fils dans l'école, le jardin d'enfants, il y avait un minimum d'hommes dans la crèche pour être sûr qu'il y ait une bonne représentativité des rôles autour de lui. Donc, en l'occurrence, ça reste encore vachement dominé par les femmes, mais en France, j'avais lu que 99% des personnels de crèche sont des femmes, 95% en école maternelle, alors que en Norvège on atteint, bon, ça reste 80%, mais ils mettent des quotas minimums qui augmentent chaque année. Et ça, je trouve ça intéressant. Également dans les universités, en philo, en socio, il y a trop de femmes, donc ils autorisent les universités à mettre des quotas d'hommes. Et moi, je trouve que du coup, le fait que quand mon fils, il allait au jardin d'enfants en Norvège, bah, il y avait Amel, qui était le gars qui s'occupait de mon fils dans leur équipe pédagogique. Et forcément, mon fils, il était trop content d'aller au jardin d'enfants, de jouer avec Amel, de s'amuser avec Amel, etc. Et moi, je trouvais ça super, super innovant comme approche. Et je trouve aussi que ça nous fait poser des questions, nous, sur la manière dont on a de traiter le féminisme en France.
Je pense que il y a un aspect très pragmatique. Dis-moi si je me trompe, parce que je connais pas vraiment bien la culture, mais je trouve qu'il y a un côté très pragmatique, tout comme les Allemands peuvent être très pragmatiques aussi, tu vois, en termes de société, où à un moment donné, ils se disent, bon, bah, on a un système pour faire en sorte de régler le problème d'inégalité, on va mettre des quotas pour que la part des femmes se remette à peu près à égalité. Bon, on va faire exactement pareil pour les hommes dans les trucs où il n'y a pas d'égalité dans l'autre sens, en fait. Donc c'est trop bien, quoi.
C'est trop bien, et ça se fait sans agressivité, sans heurts. C'est des modèles qui aiment bien tester les modèles, voir et puis discuter une fois qu'il y a eu les statistiques. Alors est-ce que les enfants étaient mieux ou moins bien du fait qu'il y ait cette pluralité dans leurs repères? Ils sont beaucoup moins, j'ai envie de dire, ils sont assez pragmatiques quand tu dis ils se basent sur l'empirique, voyons voir comment ça fonctionne avant de juger si c'est bien ou pas bien. Donc ils sont plus dans le test and learn, comme on dit, que dans les grands principes républicains qui font que c'est pas égalitaire, déjà que les femmes souffrent sur le marché du travail, si en plus on leur enlève les boulots là où elles sont la plupart qualifiées pour le faire, on va rediscriminer les femmes. Enfin, non, ils sont pas là. On essaye, on voit, et puis on adapte après.
Qu'est-ce qui fait pour toi que la société norvégienne est à ce point-là en avance sur ce sujet-là par rapport à la société française? Là, maintenant que tu côtoies une Norvégienne depuis longtemps et que tu y as vécu pendant plusieurs années.
Alors, il y a beaucoup d'éléments, franchement, on va dire culturels. D'abord, en Norvège, il y a une loi, un peu l'équivalent. Nous, on a liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un peu notre triptyque chez nous. Eux, ils ont une loi qui s'appelle la loi de Jante, Jantelov, Et cette loi, elle dit que en tant qu'individu, tu te dois d'être humble et tu ne peux pas te sentir supérieur à l'autre. C'est quelque chose qui est très ancré chez eux, le fait que on refuse un peu une sorte de d'hégémonie. Un peu, nous, en France, on a l'université des valeurs, c'est nous les meilleurs, notre concept, la laïcité, il faut l'appliquer dans le monde entier, c'est comme ça. Ils sont non, ils sont très humbles. Tu ne peux pas être supérieur à l'autre. Et donc, l'homme n'est pas supérieur à la femme, très très tôt. Et notamment aussi énormément relayé par le culte protestant. Alors, ils sont très protestants. Donc, dans le protestantisme, une femme peut être pasteur. On autorise maintenant le couple homosexuel dans l'Église. C'est une culture vraiment très libérale, qui font que c'est très ancré chez eux le fait que on n'est pas forcément genré dans l'approche père-mère, gay homme-femme. Également, c'est une société où très vite, j'en parle un tout petit peu dans le bouquin, mais ça mériterait beaucoup plus d'attention. Dans toute la littérature pour enfants, il y a un personnage central dans les pays nordiques qui s'appelle Fifi Brindacier. Peut-être que tu la connais.
Ouais.
Fifi Brindacier, c'est une petite fille. Elle a été créée en 1945, ce personnage. C'est une petite fille qui a des nattes rousse hyper forte, qui renverse tous les rapports de force, égalité homme-femme, petit contre vieux, gentil contre méchant, et elle est vraiment la plus forte de sa classe et elle renverse un peu tous les ordres établis. Et en fait, moi, ma femme, elle m'explique, elle a grandi avec elle comme repère, et même les hommes, les petits-enfants, ils ont grandi avec Fifi Brindacier en repère de petite femme un peu moderne, petite fille qui n'hésite pas à renverser l'ordre établi, comme je disais. Et donc, du coup, c'est ancré chez eux que la femme, elle n'a pas vocation à être à la maison, elle n'a pas vocation à s'occuper des enfants. Ça va être discuté au sein du couple. Et là où je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'ils sont pas dans le jugement. C'est-à-dire que si une femme veut rester 8 mois à la maison et faire que son mari ne s'occupe pas de l'enfant, t'as le droit de faire ton choix de vie, je le respecte, c'est pas parce que tu fais ça que tu n'es pas égalitaire, que tu n'es pas féministe, quoi que ce soit. Et ça, je trouve assez, assez intéressant.
Ok.
Je sais pas si ça répondait un peu à tes questions, mais je pense que c'est un truc un peu culturel qui est hyper important. Et puis qui fait aussi aujourd'hui, je trouve que être père responsable aujourd'hui en Norvège, clairement, c'est prendre un congé paternité, un long congé paternité. Parce que moi, je l'ai senti quand j'ai tergiversé, tu sais. J'étais là, non, je sais pas, etc. Au boulot, les femmes disent, quoi ? Attends, mais tu vas pas prendre ton congé paternité, mais t'es pas un vrai mec. Comment ça, je suis pas un vrai mec ? Attends, il y a le boulot, tu sais. Si t'es pas responsable vis-à-vis de tes enfants, t'es pas un homme viril de 2020, quoi. C'est clair et net. En fait, c'est clair comme de l'eau de roche pour eux. Ça ne se débat même pas, en fait. Et donc, du coup, dans le milieu professionnel, surtout chez certaines femmes, enfin, chez toutes les femmes, les hommes qui prennent pas leurs congés parentaux, ça peut être mal vu. Ça, je l'ai un peu ressenti. Et au contraire, plus tu prends un long congé paternité, plus tu es un peu starifié comme père. Et du coup, moi, quand j'ai pris 5 mois, j'étais « Ah, regardez Tristan, il prend 5 mois. En plus, il fait un blog pour essayer de changer la France. » Vraiment, c'est un exemple pour tous les pères de Norvège. Enfin, et ça, tu prends une claque parce qu'en France,
C'est moins valorisé.
En fait, au-delà de ça... Et je vais te dire honnêtement, j'aurais trouvé ça ridicule, mais vraiment ridicule qu'un père se mette en scène avec son enfant en disant « moi je m'en occupe bien, regardez ce qu'il faut faire, je lui donne le biberon, etc. » En fait, et d'ailleurs, pour faire une petite confidence, moi au début, la seule peur que j'avais de me lancer dans le blog, c'est que j'avais peur d'être ridicule auprès de mes potes, qui est vraiment genre... mais c'est ridicule, Tristan, ce que tu racontes là. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu t'occupes de ton enfant? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, bah voilà, tu passes 3 mois avec lui, très bien, mais enfin, déjà, tes histoires, elles sont nulles, on s'en fout. On a autre chose à faire. J'ai 40 milliards de trucs au boulot, j'ai pas le temps de lire ton truc. Et j'avais très peur, moi personnellement, de l'image que je donnais de moi-même aussi au milieu professionnel quand je me suis lancé dans le blog en me disant « Ah ok, ce mec, il est en mode, il va s'occuper de ses enfants à la maison, il est plus du tout impliqué dans son boulot. » Et j'avais vraiment peur en bloguant de donner cette image-là. Et je suis content que j'ai mis du temps à l'accepter. Et j'ai mis du temps à comprendre que, OK, tu peux te mettre en scène dans ta vie un peu perso sans pénaliser ton image en tant que, voilà, moi je suis dans le marketing, milieu international, j'ai pas envie qu'on me prenne pour le papa poule qui va pas être performant au milieu du travail, en fait. Et franchement, j'ai eu un peu flippé au début de me mettre en scène là-dessus. Au final, ça.
Merci,
ça
fait... merci de partager ça, c'est cool parce que je pense que ça fait aussi partie des problèmes, enfin tu vois des freins à ce que des pairs soient plus impliqués, quoi. Donc c'est plutôt et avec le recul, qu'est-ce que tu retires de ce long congé paternité? Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience?
Que la France en fait, je l'ai vécu par rapport au fait que j'étais français, et pour moi je l'ai vécu vraiment que la France a tellement d'opportunités de changement et d'amélioration qui ne doivent pas se résumer à l'allongement d'un congé paternité. Et pour moi, c'est vraiment ça le point central que j'en ai retiré. C'est on a de la marge en France, mais franchement, on n'a pas besoin d'être dans la négativité, etc. Il y a plein d'opportunités. Allons-y. Faisons changer la France. Mettons en place des groupes de naissance. Voyons voir si ça marche. Mettons en place des groupes de papa et bébé yoga. Voyons voir si ça marche. Des papa et bébé nageurs. Voyons voir si ça marche. Mettons en place, comme en Norvège, une loi selon laquelle les musées doivent pouvoir, le mercredi de midi à 14h, accompagner des parents en poussette pour que les parents puissent aussi avoir accès à un milieu culturel pendant qu'ils sont en congé parentaux. Mettons en place des structures où, comme la journée du papa en Norvège, t'arrives, tu reçois une invitation, bonjour, vous êtes père, on fait réunir tous les pères du quartier dans la petite crèche de Grüner-Loka à côté de chez vous, venez, vous avez des sandwichs et un café gratuit. On y va avec ma fille, on se retrouve dans une salle avec 17 pères. Bon, je t'avoue que là, j'ai vraiment cru que j'étais pas à mon... Il y avait quelque chose de pas normal de se retrouver avec 17 hommes et 18 bébés, en l'occurrence, parce que il y en avait un qui avait des jumeaux, qui s'appelait Magnus, qui faisait 2 mètres, il s'en occupait super bien. Là, j'étais un peu mal à l'aise en me disant, ils vont trop loin dans le délire de on se réunit tous et on fait comme si on était des mères un peu. Parce que spontanément, j'aurais pas fait ça peut-être en tant que père, d'avoir 17 pères, et puis de quoi on va parler? On va parler bébé et couche. Et ouais, on a parlé bébé et couche. Est-ce qu'on parle foot? Non. On parle politique? Non. On parle motricité de l'enfant, quoi. Et ce genre d'initiative, c'est ça dont la France a besoin pour faire changer les mentalités. Et vraiment, moi, c'est ce que je retiens de mon congé paternité en Norvège, c'est que il en faut peu. Il y a quand même un peu de logistique à avoir, mais il en faut peu pour changer les rapports hommes-femmes, la culture. Et il y a des modèles qui marchent, inspirons-nous-en.
Et toi, à titre perso, en tant que père, pour le coup, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a changé ton rapport à ta fille de passer 5 mois en tête à tête avec elle? Est-ce qu'elle a fini par savoir marcher? Est-ce que t'as atteint ton objectif?
Elle a marché à 10 mois. Elle était super rapide, donc forcément, j'étais fier. On a tissé beaucoup de liens, forcément, parce que quand ma fille avait des contrariétés, qu'elle se blessait un petit peu, directement, elle allait me voir. Elle n'allait pas forcément voir Louise, ce qui n'était jamais le cas avec le premier, qui allait toujours voir sa mère quand il avait une contrariété. Enfin, c'est ce que j'observe dans 95% des couples en France et dans le monde. Hein. Et là, comme elle avait vécu avec moi 5 mois, c'était papa le réflexe. Et du coup, ouais, on a tissé quand même des liens assez forts. Aussi avec l'aîné Émile, parce que du coup, comme j'étais à la maison pendant longtemps, je pouvais aussi m'en occuper de lui de plus. Donc du coup, je me suis aussi rapproché de l'aîné. Mais elle, c'est clair que c'est papa va lire une histoire le soir, papa, c'est papa qui doit venir me coucher, etc. Elle est vachement papa, papa. Et aussi parce que forcément, je me suis vachement attaché à elle. Il y avait un peu une prolongation de moi-même là-dedans. Je suis hyper dans l'affect avec elle et aux petits soins. J'aime bien le moment du bain. Enfin, tu vois, j'aime bien leur donner le bain. Il y a certaines routines comme ça qu'on a gardées que j'avais pas eu avec Émile. Donc du coup, le bain, l'histoire, changer les couches, c'est toujours pour moi. Et ça m'a fait juste réfléchir sur le fait que être papa, c'est quand même. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même finalement du temps. En fait, tu peux être un bon père et travailler beaucoup pour faire nourrir ta famille, il n'y a pas de souci, c'est ton modèle, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de l'éducation, c'est le temps et la qualité du temps. Et du coup, la Norvège, elle m'a fait réaliser ça, ce qui est peut-être un petit peu stupide de le dire, mais voilà, donner du temps et lâcher les téléphones pendant que tu es dans ce temps-là. Et pas forcément te prendre en selfie avec ton enfant et le mettre sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, regardez comment je suis un super père !» Non, 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 juste être un bon père avec du temps, c'est cool. Et j'ai adoré cet enseignement-là norvégien qui fait aussi que... On m'a fait réaliser aussi que oui, c'est moi et mon enfant, mais à travers moi et mon enfant, c'est toute une société de pères qui sont dans ce délire-là de s'occuper des enfants et qui déculpabilisent les pères qui aiment rentrer dans cette éducation proche avec leur enfant et qui ringardisent indirectement ceux qui ne le font pas. Et qui se laissent pousser la barbe, hein, parce que quand même, les gars, les Norvégiens, bon, ils font quand même tous 1m84, ils sont des gros barbus. Et c'est pour ça que j'ai donné aussi le nom de blog de Barba Papa, parce que bon, c'est des papas un peu poules qui donnent des petites sucreries à leurs enfants, parce que les pères, ils font souvent ça pour se rendre utile. C'est le sympa du couple, hein. La mère, elle dit d'aller se coucher, le père, il donne le bonbon en cachette. On la connaît, l'histoire. Et c'est un peu ça qu'ils font. Mais ils sont à la fois très virils et très féminins. Et je trouve que ça casse un peu les clichés.
D'où le titre de ton bouquin d'ailleurs, hein. La barbe et le biberon, ça marche bien.
Tu trouves ?
Ouais, je trouve, ouais.
Parce que j'étais pas trop à l'aise, moi. C'est la maison d'édition qui m'a dit ça. Moi, je voulais l'appeler soit les papas velours, comme je disais, soit Génération Barba Papa.
Mais ça veut rien dire, tu vois. Les papas velours, tu sais pas, tu sais pas ce que c'est.
Ouais, ben, t'as peut-être travaillé dans le milieu, donc tu sais. Donc, barbe et biberon, ouais, c'est clair, c'est la virilité.
Bah pour le coup, la barbe, ouais. C'est ça. La barbe, il n'y a pas plus viril que la barbe, quoi, tu vois. Donc, ouais. on sait tout de suite que c'est dédié au genre masculin, quoi, tu vois, a priori.
Exactement. Et puis, il y a l'allitération barbe et biberon, et puis il y a le lien avec barbe à papa. Non, c'était cool. Non, franchement, ils ont fait un bon boulot. Et je suis content, ouais, parce que du coup, tu vois, même rien que hier, je reçois quand tu dis qu'est-ce que j'en ai tiré, non seulement j'en ai tiré pour moi, mais en fait, je vois quand même que tu laisses un peu des traces autour de toi, dans ton cercle proche, et son, mais des gens qui te connaissent pas et qui t'écrivent. Bon, toi, tu dois l'avoir puissance 10 avec tes histoires de daron, mais hier, il y a un mec qui me dit, ah bah, tu vois, je suis tombé sur ton passage des papas velours. Et ça faisait longtemps que je voulais sortir un média pour les pères, parler de ça. Donc moi, et du coup, est-ce que ça te va si j'utilise le terme de papa velours pour créer un média là-dessus? Mais ouais, vas-y, go, ça m'appartient pas, hein, ça appartient à tous les pères du monde. Et finalement, c'est peut-être la plus grande satisfaction, c'est pas forcément le retour des femmes qui sont super contentes de ce genre de bouquin, mais aussi des pères qui remercient de donner un côté un peu frais, nouveau, différent et inspirant.
Bah écoute, j'espère que il va y avoir des futurs pères ou des pères qui vont écouter ton épisode et qui vont se dire ah ok, ça vaut la peine d'aborder le congé paternité qui va arriver là l'année prochaine de 28 jours d'une façon un peu différente, voire même de prendre un congé, parce que ça sera toujours possible, mais de prendre un congé parental un peu plus long en fait en France suite à l'écoute de ton épisode. En tout cas, c'est vraiment ce que j'espère, hein, d'une manière générale. C'est ce que j'espère faire avec le podcast. C'est plutôt cool. Donc, juste pour revenir à ton actu là actuellement, c'est que on disait juste avant de démarrer l'interview que donc aujourd'hui tu vis en Suisse, enfin vous vivez en Suisse et vous venez d'avoir votre troisième fille. Et donc exactement. Tu te retrouves dans un pays qui était en tout cas l'un des pires pays au monde en termes de congé paternité.
Non mais c'est ici, faut pas que je crie trop fort, mais c'est le Moyen Âge de l'égalité homme-femme de manière générale et du congé paternité en particulier. Il y a des trucs en Suisse qui m'ont choqué, par exemple, avant même de parler du congé paternité lui-même, tu sais, c'est le pays qui, jusque dans les années 90, les femmes n'avaient pas encore le droit de vote dans certains cantons, tu connais cette histoire un petit peu, mais ils utilisent des termes, par exemple, ils disent pas babysitter, ils disent maman de jour. Donc, la maman de jour, tu vois, ça c'est violent. Parce que du coup, ça veut dire, parce qu'en fait, dans les écoles suisses, entre 11h et 13h, il n'y a pas de cantine, forcément, et c'est aux parents de s'en occuper. Donc, soit c'est la mère qui bosse pas et qui s'occupe de l'enfant, soit il y a une maman, soit il y a un organisme d'État, mais il n'y a jamais assez de place pour ton enfant, soit il y a une maman de jour que tu recrutes. Voilà. Moi, ça m'a pas trop plu comme terminologie. Et puis, du coup, par contre, également, il n'y a pas de congé paternité jusqu'en 2020. Donc, zéro jour, hein, c'était même le plus petit nombre. Enfin, c'était inexistant, donc forcément, mais c'était le dernier dans tous les classements internationaux du congé paternité. Et quand ils ont fait le référendum, là, où 63% ont voté oui, donc du coup, c'était en septembre, là. Du coup, historiquement, ça allait être mis en 2021 que les pères pouvaient avoir 15 jours de congé paternité. Je me suis du coup engagé quand même ici, il y avait une association qui s'appelle le Congé Paternité Maintenant en Suisse qui existait, donc du coup je me suis pas mal engagé avec eux, relayé un petit peu leur publicité et leur promotion pour influencer le vote. Mais donc 63% c'est quand même pas mal déjà, enfin ça dépend comment on le voit, mais 63% qui disent oui à 2 semaines de congé paternité. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que du coup, je vais pas avoir mes 5 mois comme j'ai eu avec ma fille. Et j'ai envie de dire.
Tu disais que tu bosses quand même dans une boîte qui va te donner un mois, c'est ça?
Exactement. Donc du coup, je vais pas avoir besoin de ces 2 semaines parce que moi, mon entreprise, elle me donne 1 mois de congé parental. Et ça, c'est hyper généreux, en tout cas hyper cool parce que, petite parenthèse sur le rôle des entreprises dans ce congé parental, et je trouve que c'est super bien pour une entreprise de promouvoir l'égalité. Il y a un côté un peu marque employeur, je suis moderne, inclusif, et c'est très bien. Je compense aussi le manque d'action des États, je fais pression sur les États, c'est très bien. Je reste persuadé que c'est pas le modèle à suivre parce que moi j'habite au deuxième étage, mon voisin du troisième étage, il va être papa et lui il est pas dans la boîte comme moi et il va pas avoir de congé paternité et du coup, on aurait pu le vivre ensemble, le truc, et du coup, on va pas le faire. Mais je remercie les entreprises de compenser quand l'État le fait pas. Et donc, du coup, moi, je vais avoir 1 mois de congé parental avec ma fille. Et je peux le prendre quand je veux pendant 2021. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais répliquer un petit peu du modèle norvégien, c'est-à-dire que j'allais le prendre quand Louise, elle va trouver un boulot ou aller bosser. Et que du coup, je me retrouverais seul avec elle pendant 1 mois plutôt que de le faire maintenant. En mode copilote, parce que je suis devenu le pilote de l'éducation de ma fille. Et elle a peut-être que je le prendrai entre son 9e et 10e mois pour que elle puisse marcher.
Pour lui apprendre à marcher. pour faire aussi bien que ta sœur, allez.
Non, mais là, je me suis un peu calmé là-dessus. Parce que d'ailleurs, ouais. Comme mon fils aîné, je lui ai appris les échecs à 2 ans, et que là, il a 7 ans, et qu'il dit « le pire jeu du monde, papa, c'est les échecs », j'ai compris que j'avais un peu raté mon objectif de l'avoir mis très tôt là-dedans. Tu sais, on a beaucoup de choses comme ça.
Pourquoi t'as fait ça?
C'est parce que moi, j'ai appris les échecs tôt et j'ai reproduit. Et j'adore les échecs, je joue un peu ça tous les jours. Et je voulais jouer avec mon fils parce que je voulais qu'on joue ensemble. Mais je l'ai mal fait. Je l'ai vraiment mal fait. C'est-à-dire que.
Ouais, je comprends. Sous la contrainte.
Ouais, mais il connaît toutes les pièces, il se débrouille bien, il joue, il peut me faire un échec et mat, mais il prend aucun plaisir, donc j'ai arrêté. Il veut faire du foot, je dis le foot, mais tout le monde fait du foot. Ah bah oui, mais je veux faire du foot. Ah bon, bah, il fait du foot. Dans le club.
Tu n'as pas montré le jeu de la dame sur Netflix?
Ah non, bah je l'ai regardé. Non, non, non. Non, mais il faudrait qu'il. Mais non, mais il regarde Netflix tout seul à 7 ans, il a l'iPad. Il est déjà bien,
Ouais.
bien trop. Enfin, il a d'ailleurs 6 ans, il a bientôt 7 ans. Mais
Ouais.
ouais, donc ça me fait juste dire que là, je vais vivre un congé parental à la Suisse, un peu, avec un mois. Mais je trouve qu'il y a un côté être dans le moule comme ça, enfin, s'adapter au pays dans lequel tu es. Je trouve que c'est aussi une certaine logique. Bon, bah, le pays dans lequel je suis, il offre pas de congés parentaux. Je peux même pas le prendre. Bah, voilà, faut s'adapter. Il y a un côté, bon, on s'adapte on peut pas comme ça vouloir exporter tous les modèles et vivre une autre chose qui se passe pas forcément dans le pays. Par exemple, là, tu vois, même un petit truc qui s'est passé à la naissance de ma fille. Et là, il y a une semaine, quand Nora est née en Norvège, à Oslo, la sage-femme m'a dit, ah, déshabillez-vous, il faut qu'elle fasse du corps à corps contre vous, mettez-vous là contre elle. Et du coup, j'avais suivi les indications de la sage-femme, puis ma fille s'était comme ça, posée contre moi pendant 10 minutes, c'était trop bien comme moment. Puis j'essaie de reproduire ça là pour Ella, alors qu'en fait déjà on était sous Covid, donc il y avait le masque, donc fallait pas que je reste très longtemps. Et c'était pas du tout dans le flow du truc en fait, c'était pas du tout adapté. Mais je sais pas pourquoi je l'avais bien vécu, je voulais le reproduire. Et du coup, je me suis mis tout nu, enfin tout nu, je me suis mis torse nu. Je crois que la Sacha m'a dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Elle était en train de téter le sein de ma mère. Elle venait d'accoucher, elle était en train de téter le sein de Louise. Je lui dis, non, mais je voudrais faire un peu de corps à corps et tout. Elle était là, non, non, on n'a pas trop le temps parce que normalement vous êtes là qu'une demi-heure. Donc, non, mais donc je la prends. Elle crie comme elle a jamais crié. Genre, elle n'était pas du tout contente, etc. Et c'est là, et c'est ces moments-là où tu comprends aussi. Il faut pas reproduire. Voilà, ça s'était passé en Norvège, c'était magique avec Nora. Là, on est dans un autre monde. Il n'est pas aussi avancé. Il y a Covid, il n'y a pas cette culture-là. En Norvège, Louise avait accouché dans une baignoire. Là, elle a accouché de manière plus classique. Voilà, faut s'adapter. Et du coup, je me suis dit, putain, mais donc, du coup, je l'ai lavé, si, pleure pas. Après, elle cherchait mon sein, il y avait des poils et tout, c'était horrible. Et je l'ai rendu en 30 secondes. À sa mère, la sage-femme a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce couple un peu bizarre? Ce qui me fait dire, adaptons-nous à notre environnement plutôt que vouloir toujours exporter des choses qui
Et puis,
sont naturelles.
il y a une bonne leçon aussi derrière tout ça, c'est être père, c'est aussi pas mal lâcher prise.
Ah, c'est clair. Mais tu dis lâcher prise pour les hommes ou pour les femmes?
Mais pour tout le monde,
Ouais,
tu
pour
vois,
tout le monde.
tu vois, comme tu racontes ton expérience avec ton fils à qui tu as appris les échecs trop tôt, mais moi, c'est pareil, j'ai fait le même genre de truc où tu te dis, tu veux à tout prix que tes enfants rentrent dans un moule, mais j'imagine toi comme moi, on n'a jamais eu de podcast quand on était jeune père où on nous entendait nous en train de dire, hé hey, oh, chill, t'inquiète, ça va bien se passer.
Non, c'est clair. Mais non, mais les erreurs d'éducation, il y en a tellement, mais forcément que c'est même les. Enfin, forcément qu'on apprend, mais c'est des bons moments de vie aussi. Enfin, je veux dire, on en rigole maintenant avec mon fils quand il dit c'est vraiment le pire jeu au monde, papa. J'ai vraiment réfléchi. Alors, on joue au poker, mais sans argent, mais il adore le poker. On joue à des jeux de. Je sais pas, au mille bornes, etc. Il adore. Il a bien réfléchi. Il a fait le tour de la question et tout. Et j'ai analysé, papa. Et vraiment, non, non, non. C'est vraiment le pire jeu au monde. Le jeu que je déteste le plus.
Faut le mettre au jeu de Go. Si en général les gens qui aiment pas les échecs, ils aiment bien le Go, tu vois, dans.
Non, mais il essaye le Rummik's Cube. Hein. Il essaye des trucs un peu dans le délire. Mais ouais, je vais le changer. Mais Juste un petit truc sur le lâcher prise quand même, dont j'ai pas trop parlé, mais il y a le lâcher prise, on va dire quand même que, je sais pas si t'as beaucoup de femmes qui t'écoutent, qu'elles ferment, qu'elles bouchent leurs oreilles, mais le lâcher prise, c'est vraiment peut-être une dimension chez les femmes qui a beaucoup à être travaillée quand on parle d'égalité homme-femme, parce que on parle du manque d'implication des hommes, c'est, il est évident. Il y a aussi beaucoup de femmes qui lâchent pas beaucoup prise sur l'éducation de l'enfant, qui ont leurs principes. Et Louise, avec le modèle norvégien, où elle a dû lâcher prise littéralement et accepter que je m'occupe de l'enfant pendant 5 mois seule, ça a été très dur pour elle. D'ailleurs, au début, elle me collait plein de post-it sur quand est-ce qu'elle mange, ce qu'il faut faire, trois cuillerées de poudre pour un décilitre d'eau, etc. Enfin, tout le délire de exactement comment fallait faire, les purées, à quel moment, quelle heure. Et petit à petit, elle a un peu lâché prise en disant « Ok, ben, en fait, c'est Tristan qui va gérer et du coup, elle doit accepter ça. » Et c'est une des quand même des grandes forces du modèle nordique, encore une fois, c'est que non seulement elle implique le père et elle oublie aussi la mère à lâcher prise. Et avec les avantages que ça crée, parce que ça va leur permettre aussi de... Louise, par exemple, elle a beaucoup, beaucoup plus... elle s'est beaucoup plus épanouie dans son boulot, elle a beaucoup plus vu ses copines, elle a un peu lâché des enfants. Et c'était beaucoup plus équilibré, du coup. Et le lâcher prise, c'est le pendant de la charge mentale. J'en parle un peu dans le bouquin. C'est un peu comme on dit, il y a le quota d'hommes dans les métiers des petits enfants, comme un quota de femmes là où il en manque. C'est vraiment, c'est voilà.
Ça va dans les deux sens, quoi.
Dans les deux sens, ouais.
Écoute, j'ai ma dernière question que finalement on a beaucoup parlé de congé paternité, mais c'est très bien parce que c'est exactement ce que je voulais. Mais j'ai ma dernière question, tu sais, que je pose à chaque fois à la fin de chaque émission. Si demain t'as tes enfants qui écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que t'as envie de leur dire aujourd'hui? Et là, je te vois, tu te prends la tête.
Non, mais
peut-être qu'Emile sera devenu champion du monde d'échecs, on ne sait pas.
J'espère pas pour lui. Non, mais alors là, si ça se passe, non, franchement, je t'offre le champagne, Fab. Il y a pas de souci. Ceci dit, le champion du monde d'échecs aujourd'hui, il est norvégien. Il s'appelle Magnus Carlsen et il est déjà à 25 ans. Il battait tous les records du monde et tout. Donc, en fait, en Norvège, il y a la Chess Mania. Tout le monde veut jouer aux échecs pour ressembler à ce Magnus. Et en tout cas, dans 10 ans, s'ils écoutent ce podcast, j'ai envie de leur dire j'ai fait de mon mieux. Je pense que, excusez-moi si j'étais trop insistant sur des hobbies que moi j'avais pour vous. J'ai envie de leur dire essayer de vivre en France, c'est pas forcément qu'en Norvège. Il y a, même si la Norvège, sur le papier, c'est toujours mieux parce que il y a moins de chômage, il y a plus d'égalité homme-femme, tout le monde est heureux, tout le monde est content. La vie, c'est aussi des expériences différentes et du coup, mettez-vous en dehors de votre zone de confort. Ne cherchez pas la perfection, cherchez l'imperfection. Soyez curieux. Et écrivez, parce que finalement quand même l'écriture, ça permet de poser des mots sur des idées, et ça permet de commencer avec un blog, de finir avec un livre, ça permet de plein de choses d'écriture. Alors lancez-vous en français, en norvégien, comme vous le sentez. J'espère que ouais, j'étais un peu nul là sur cette question là. Pourtant, j'aurais pu la préparer. Hein.
Pas du tout. Pourquoi tu dis que t'étais nul? Commence pas à te donner une évaluation.
Ok, d'accord. Écrivez, les enfants, et faites des podcasts.
Bon, merci beaucoup Tristan. Bon, je mettrai comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude dans les notes de l'épisode, ton blog, ton compte Insta et aussi forcément un lien pour aller découvrir ce fameux livre qui s'appelle La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout. Il n'y aura pas la vidéo, tu sais. Tu
montres la vidéo. Non, j'essaie, mais tu sais que comme en fait, au début. Quand tu sors un bouquin, peut-être que ça... T'as écrit un livre ou pas ?
Ouais, j'ai écrit un bouquin sur... j'ai écrit, je pense, le premier blog de papa en 2006.
Et tu l'as publié ?
Ouais, mais il est sorti, mais contre mon gré en plus. Enfin, contre mon gré. C'était pas forcément l'objectif à la base. Ça s'appelle donc... Futur Papa.
Moi, je vais regarder ça tout de suite, je savais pas, mais t'en parles plus du tout. Bah non, ça a 14 ans, donc...
C'est super vieux, je l'ai jamais trop relu, mais je suis pas sûr d'être très très à l'aise avec ce que j'ai écrit il y a 14 ans, tu vois. Même si à l'époque, ça, c'était très vrai, c'était ma vérité, tu vois, mais j'ai tellement changé.
Je vais le dire direct. Attends, Futur Papa.
Oh my God. Ouais, mais en gros, c'était un blog, mais c'est marrant que tu m'en parles, parce que vraiment, j'en parle pas souvent, c'est vrai. Mais c'est un blog, j'avais écrit un blog, en fait... pendant la première grossesse de ma femme, de mon ex aujourd'hui, et en fait je lui ai demandé de pas le lire en me disant ça va être marrant, un peu comme ce que t'as fait, tu vois. Je me suis dit je vais vivre un moment un peu étrange et je pense que je vais le noter dans un blog et je vais écrire. En fait j'écrivais tous les jours. Alors ce qui est marrant c'est que j'étais en train de créer Mademoiselle en même temps, donc en plus j'avais un peu ce truc de double création, quoi. J'écrivais quasiment tous les jours dedans et en fait au bout de je sais pas peut-être 15 jours, 3 semaines, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'en fais. Je m'étais dit je vais l'offrir en cadeau à la mère de ma fille. Ouais. Quand elle aura accouché, tu vois, je vais l'imprimer et en fait je lui amènerai à la maternité pour qu'elle puisse le lire et qu'elle voit un petit peu. Mais je lui avais demandé de pas le lire pendant la grossesse, tu vois, de si jamais elle en entendait parler. Moi, je l'avais filé à quelques potes et tout pour qu'ils puissent quand même lire, mais c'était pas du tout l'objectif. J'ai sorti ça de façon anonyme et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout le délire des forums de femmes enceintes à l'époque. Mais en fait, le blog a commencé à sortir à droite à gauche sur les forums. Et le truc, à la fin, il y avait 7000 visites par jour où les gens, ils attendaient. Il suffisait que je publie pas un post parce que je publiais tout le temps à une heure donnée, tu vois. Ouais. Il suffisait qu'un jour, je publie pas le post, juste j'étais au cinéma, tu vois, que les gens se disaient « Ok, c'est bon, elle est en train d'accoucher, c'est parti ». Et en fait, ma femme à l'époque m'avait dit « Écoute, je veux bien ne pas le lire, mais tu me fais la promesse que si tu écris encore à la moitié de la grossesse, tu lui envoies un éditeur. » Et en fait, moi, j'avais aucune velléité, tu vois, d'écrire un bouquin. Je lui dis « Ok, si tu veux. » Et en fait, elle a pas oublié. Donc, à part 4 mois et demi, elle est venue me voir en me disant « T'écris encore, au fait ?» Je lui dis « Ouais. » Elle fait « Est-ce que tu vas envoyer ce que tu as écrit à un éditeur ?» Pas du tout, en fait. Ça m'intéresse pas. Je suis désolé. Elle m'a dit « Bon, si c'est ça, moi, je vais aller lire le bouquin. » Enfin, je vais aller lire ton blog. Et en fait, de suite là, je suis allé à la FNAC. Je connaissais rien au milieu d'édition. J'ai cherché le top des ventes, tu vois. Et il y avait Musso qui était en premier. Musso, c'était XO Édition. Je l'ai envoyé à la directrice littéraire de XO Édition. Et en fait, elle sortait de congé maternité. Donc, si tu veux, elle était en plein dans le truc.
Ouais.
Elle dit « c'est génial votre truc, on n'a jamais entendu ». Jamais eu de parole de père, machin. Et en fait, son boss voulait pas l'éditer. Donc, elle l'a envoyé à son gars qui bossait dans une autre maison d'édition. Et les mecs m'ont signé un contrat avant même que ma fille accouche, en fait, tu vois. Donc, je leur ai dit, calmez-vous. Je vais juste... OK, je vais signer si vous voulez. Mais en fait, je sais même pas comment on va finir le truc parce que grossesse, c'est pas terminé.
C'est énorme.
Donc, et c'est sorti 6 mois plus tard, quoi. Ça a super bien marché à l'époque. Vraiment, c'est marrant.
Mais tu me fais réaliser que, d'accord, en fait, donc moi qui pensais être un petit peu, tu vois, moderne, avant-gardiste, en fait, ça existait déjà il y a 14 ans, cette histoire.
Mais c'est pas ça, c'est que...
Tu m'as donné
sur le congé paternité, t'es... Mais non, mais sur le congé paternité, t'es hyper précurseur. Là, pour le coup, moi, je pense que j'étais vraiment un des premiers darons à dire vraiment comment je vivais la grossesse de l'intérieur, quoi, tu vois, avec tous les trucs qui sont bizarres. Et en fait, je comprends très bien ta démarche, d'autant mieux ta démarche que je pense que moi, je me suis beaucoup intéressé à la grossesse grâce à cette activité de blog et grâce à cette écriture, en fait, où
de ce fait-là, je m'étais renseigné, ou alors, tu vois, je provoquais des discussions que j'aurais jamais provoquées sinon, juste pour comprendre un peu comment elle, de son côté, elle vivait les choses. Ou sinon, je pense qu'à l'époque, j'étais en plus en train de lancer Mademoiselle, je me serais focus sur mon projet et j'avais d'autres choses à foutre, quoi. Donc, en fait, c'était vraiment trop, trop bien de faire ça. Et je sais qu'il y a plein de pères qui ont lancé des blogs de pères suite à ça, parce qu'ils se disaient, OK, c'est cool aussi, ça permet de pouvoir s'impliquer dans la grossesse, quoi.
Mais c'est clair. Mais, mais tu dois être trop fier. Franchement, je regardais en attendant, là, mais je vais me l'acheter direct, futur papa.
Bah, il n'est plus qu'en poche aujourd'hui. Enfin, après, il y a toute une histoire un peu nulle. Je ne pense pas que ça t'arrivera, mais l'éditeur a foutu la clé sous la porte. Il n'a jamais payé les droits, etc. Ah. Enfin, bon, bref, très triste, la fin, en tout cas financièrement, la façon dont ça s'est terminé, c'est un peu nul. Mais aujourd'hui, je suis content, en fait, parce que le bouquin, il existe toujours. Je t'avoue que je ne l'ai jamais relu, donc je ne sais pas trop ce que ça raconte, quoi.
J'ai vu les commentaires, tu avais des bons commentaires. Non, mais je vais regarder. Mais en tout cas, quand tu l'as écrit, ce bouquin, au moment où tu l'édites, tu es vachement. Et où il publie, tu es vachement sensible au retour et à suivre un petit peu les ventes, comment. Est-ce que les librairies l'ont pas, etc. Et j'étais vachement dans ce mode-là au début. Puis là, je prends un peu plus de recul en disant c'est un témoignage parmi beaucoup, beaucoup. Il y a à apprendre. C'est inspirant comme ouvrage, mais. C'est pas le centre de ma vie non plus. J'ai un boulot à côté. Là, c'était vraiment un hobby qui s'est transformé en bouquin. C'était cool. Ouais. Et donc, je suis un petit peu plus relax par rapport au succès du bouquin. Mais en tout cas, je suis content que il y a même des producteurs qui m'ont appelé qui disent ah mais attends mais ton histoire faudrait la scénariser, la mettre en mode film.
Série quoi.
Bah série ouais parce que. Tu peux te dire, il me disait souvent, ouais, il faudrait faire le trois hommes et un couffin moderne. Avec cet angle un peu scandinave, norvégien, des Français un peu tradis en Norvège qui doit s'adapter. Il y a beaucoup de choses à aller récupérer, donc il trouvait ça intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a plein de. Chaque projet donne naissance à d'autres projets qui donnent naissance à d'autres projets. Et je suis quand même très fier qu'on ait écrit cette tribune ensemble. Quand même en fin d'interview, je voudrais quand même le rappeler parce que il fallait quand même se mettre d'accord rapidement et moi je pense qu'on a un peu contribué à faire évoluer la France à notre niveau et il faut quand même qu'on soit un peu fiers de ça et c'est dommage qu'on n'arrive pas à bâtir là-dessus pour continuer ensemble un mouvement un peu plus fort, puissant. Je vois que on a un peu du mal à créer une structure un peu plus fédératrice. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a fait une belle petite tribune, mais il y a beaucoup de pères, moi, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, oui, tu vois, quand on divorce, c'est toujours la mère qui a la garde de l'enfant, il y a une justice matriarcale, vous en parlez pas, il y a d'autres sujets.
En plus, c'est pas vrai, hein, tu vois, dans les faits, c'est souvent, en fait, que les pères demandent pas la garde.
Oui,
c'est-à-dire que.
Oui. Mais en gros, lui, il avait vécu ça comme ça avec son. Et du coup, il était en mode. Derrière ça, c'était plutôt est-ce que vous créez quelque chose sur la paternité de manière générale, une association, etc. Je dis, il y en a déjà plein des associations féministes, mais après l'angle un peu paternel, tout ça, c'est pas si évident.
Work in progress.
Work in progress. Bon, je sais pas si tu la gardes cette séance. Mais en tout cas, merci du temps passé ensemble.
Ben non. Merci à toi pour ton témoignage. C'est très très cool. Ouais, allez acheter le bouquin, allez lire le blog de Tristan.
Merci Fabien. Ciao, ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joel Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en 10 ans. Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.